Alors, voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, moi, je serai docteur en droit le 11 décembre. Je suis spécialisée en droit de la santé et de la bioéthique. Et je travaille notamment, j'ai fait une thèse sur le consentement à l'acte médical des personnes vulnérables, donc sur les mineurs et les majeurs protégés. Voilà, si vous avez des questions après là-dessus, à midi, vous pouvez me les poser. Donc, moi, je vais intervenir là sur la question de la liberté religieuse dans le milieu médical. Alors, je vais procéder en deux temps. D'abord, on va voir un petit peu ce que c'est que cette notion de liberté religieuse, qu'est-ce que ça recoupe, et on va travailler sur certaines petites notions, notamment la fameuse notion du prosélytisme. Et ensuite, on verra comment cette liberté religieuse peut se manifester dans le milieu de la santé, milieu médical. Alors, la liberté religieuse, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, quand on va parler de liberté religieuse, on va généralement faire référence à deux types de libertés. On a la liberté de conscience, qui est la liberté de pouvoir choisir librement ses croyances et ses valeurs, que ce soit dans le domaine politique, philosophique ou religieux. D'accord ? La personne est libre de choisir une religion, de ne pas en choisir une, ou d'en changer. D'accord ? C'est la liberté de conscience. La deuxième liberté qui est recoupée sous la liberté religieuse, c'est également la liberté d'expression. Et donc là, qui est le droit de communiquer librement ses pensées et ses opinions. Donc la personne est libre d'adopter une religion et de communiquer librement là-dessus. Là, c'est le principe. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si cette liberté, la liberté de conscience, la liberté d'expression, est-ce que ça fait l'objet d'une réglementation particulière au niveau de la loi ? Est-ce que c'est une liberté qui fait l'objet d'une protection particulière au niveau de la loi ? Alors là, on va passer au petit point technique, juridique. Donc respirez, ça va aller. Alors, en France, notre système juridique est organisé sous la forme d'une pyramide. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a un système de hiérarchie des normes. On va avoir des normes d'un niveau supérieur et des normes d'un niveau inférieur. Et en fait, l'idée, c'est que les normes d'un niveau inférieur ne peuvent jamais aller à l'encontre d'une norme d'un niveau supérieur. Pourquoi est-ce que je vous explique ça ? C'est parce que vous allez voir que dans notre pyramide, en fait, la liberté religieuse est protégée à plusieurs niveaux. Alors, petite illustration pour que ça soit plus clair. Donc ça, c'est ma pyramide des normes, d'accord ? Au sommet de la pyramide des normes, j'ai un texte qui s'appelle la Constitution, d'accord ? La Constitution française, donc le texte qui va protéger les normes suprêmes en France, toutes les valeurs fondamentales. On a aussi d'autres textes qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, et donc il y a plusieurs textes, et ce sont les normes suprêmes en France. Donc aucun autre texte peut aller à l'encontre des droits et libertés prévus dans la Constitution. Au deuxième niveau, on a les conventions. Donc les conventions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des textes internationaux, européens, que la France s'est engagée à respecter. Ensuite, le troisième niveau, ce sont les lois, d'accord ? Et notre dernier niveau, ce sont les règlements. Donc c'est tout ce qui va être circulaire, arrêté, décret, etc. D'accord ? Donc ça veut dire, là par rapport à notre hiérarchie des normes, que, par exemple, une circulaire ne peut pas aller à l'encontre d'une liberté prévue dans la Constitution. Parce que jusque-là, ça va. Alors, on va voir, en fait, que notre liberté religieuse est protégée à plusieurs niveaux dans notre pyramide des normes. Alors, au premier niveau, on a vu la Constitution. Au sein de la Constitution, il y a un texte qui nous intéresse plus particulièrement, qui est celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord ? Un texte qui date de 1789, qui vient protéger plusieurs libertés fondamentales en France. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège notamment la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et donc nous avons l'article 10 qui dispose que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Avec une petite nuance, il ne faut pas que ça trouble l'ordre public. D'accord ? Donc normalement, vous ne pouvez pas être arrêté parce que vous avez certaines croyances. On ne peut pas vous reprocher vos croyances religieuses. réponse qui, cette fois, protège la liberté d'expression religieuse. D'accord ? La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Donc, on voit déjà qu'au niveau de notre pyramide des normes, au premier échelon, au niveau de la Constitution, on est déjà protégé, d'accord ? Liberté de conscience, liberté d'expression religieuse, c'est protégé. Maintenant, on a le deuxième niveau, les conventions, qui protègent également la liberté religieuse. Et là, on a une convention particulière qui va nous intéresser, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. C'est une convention européenne qui vient protéger plusieurs libertés fondamentales, par exemple le droit au respect de la vie privée. Et au sein de cette convention, on a un texte particulier qui est l'article 9 qui protège la liberté religieuse. Alors ce texte prévoit notamment que toute personne a le droit à la liberté de religion et que ça implique le droit de manifester sa religion en privé ou en public. D'accord ? Donc déjà, liberté de conscience, liberté d'expression, elle est protégée au niveau de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet article vient toutefois un peu nuancer ce principe de liberté religieuse en disant qu'il est possible de restreindre la liberté religieuse si c'est prévu par la loi, si la restriction est bien nécessaire à la protection de l'ordre public ou des libertés d'autrui, et enfin si la restriction est bien proportionnée à ce but de protection. C'est-à-dire que normalement, vous êtes libre de parler de Dieu, mais éventuellement, on pourra restreindre cette liberté à condition que ce soit prévu par la loi, nécessaire à la protection des libertés d'autrui, proportionnée à ce but. Donc on ne peut pas vous restreindre plus que nécessaire. Et toujours, la liberté de communiquer en principe protégée. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Convention européenne des droits de l'homme protège un certain nombre de libertés. On a vu l'article 9 protège la liberté religieuse. Et ce texte est invocable en France. Donc c'est-à-dire que si un jour vous pensez que votre liberté religieuse n'est pas respectée, notamment par l'État français, par votre employeur, vous pouvez invoquer ce texte devant les juges. Dire là, on ne respecte pas l'article 9. Après une procédure particulière, les affaires peuvent même aller devant un juge particulier qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Et la CEDH s'est plusieurs fois prononcée sur des questions un peu de restriction à la liberté religieuse, notamment sur les fameuses questions de prosélytisme. Alors, le prosélytisme, qu'est-ce que c'est ? Belle question. Alors, en fait, on ne sait pas. Il n'existe aucun texte dans la loi, que ce soit au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, au niveau de la Constitution, on n'a pas de texte, on ne sait pas ce que signifie le prosélytisme. Pas de définition légale. Donc ça, pour un juriste, c'est génial, puisque ça veut dire qu'on peut interpréter ce qu'on veut. Donc on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Et donc là, selon la manière dont on va interpréter cette notion, eh bien, la liberté religieuse va être plus ou moins étendue. Alors voyons comment la Cour européenne des droits de l'homme, elle, interprète la notion de prosélytisme. Alors, on a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui date du 25 mai 1993. J'aime beaucoup l'arrêt Kokkinakis. Et donc, dans cette affaire, on avait des témoins de Jéhovah qui ont fait du porte-à-porte, qui ont été arrêtés, parce qu'ils faisaient du porte-à-porte. Ils ont porté plainte, etc. On est allé jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dû se prononcer est-ce que là, la liberté religieuse des personnes était atteinte ou pas. Et elle fait une distinction assez intéressante dans cet arrêt, puisqu'elle vient distinguer le témoignage chrétien de ce qu'on va appeler le prosélytisme abusif. Elle estime que le témoignage chrétien, c'est propre à chaque religion et ça n'est pas sanctionnable. Par contre, le prosélytisme abusif, j'insiste bien sur le dernier terme, c'est la corruption, la déformation du témoignage chrétien et que ça peut notamment revêtir la forme d'activités qui vont offrir des avantages matériels pour obtenir le rattachement à une église, ou exercer une pression abusive sur des personnes en situation de faiblesse, d'accord, de vulnérabilité, de besoin, pour les pousser à adopter une religion ou au contraire à ne pas en adopter une. Parce que là, ça va. Donc pour la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a que le prosélytisme abusif qui est sanctionné. D'accord ? On a d'autres arrêts, à chaque fois, elle revient sur cette notion de abus. Prosélytisme, peut-être que ça en est, on ne sait pas trop parler de Dieu, on ne sait pas trop ce que c'est que le prosélytisme. Par contre, si c'est abusif, c'est là que c'est sanctionné. En France, on a certains textes de loi qui vont un petit peu reprendre cette idée du fait qu'on ne va sanctionner le prosélytisme que s'il est abusif. On a notamment une loi qui date de 1905, la fameuse loi de séparation entre l'Église et l'État. Et dans son article 31, cette loi prévoit effectivement qu'on peut sanctionner une personne qui va exercer des pressions abusives pour pousser quelqu'un à adopter une religion, ne pas en adopter, etc. Donc on a cette idée d'abus. Et on a aussi un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, qui date du 13 juin 2000, qui estime que le prosélytisme est propre à chaque religion. Donc là, c'est intéressant. Je ne sais pas trop ce que c'est, donc prosélytisme, quelque part, témoignage chrétien, peut-être. On vous dit que c'est propre à chaque religion et ne saurait être en soi considéré comme fautif. Donc des fois, quand on entend dire « le prosélytisme, c'est interdit », bah peut-être pas. Tout dépend de ce qu'on vous dit, ce qu'on entend par prosélytisme. Là, on vous dit qu'en soi, prosélytisme, bah, c'est pas interdit. Prosélytisme abusif, par contre, là, c'est interdit. D'accord ? Donc là, c'est intéressant. Par contre, comme je l'ai dit au début, le prosélytisme, comme c'est pas défini, on peut l'interpréter de façon plus ou moins large. Là, on voit que la Cour européenne des droits de l'homme, elle interprète ça de manière plutôt restreinte. Donc, c'est-à-dire qu'on sanctionne vraiment qu'un type de prosélytisme. Et donc ça, notamment, ça va être valable quand vous voulez témoigner, par exemple, dans la rue. Vous êtes libre, largement. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'abus. Sauf que là, pour le cas qui nous intéresse, nous sommes dans le milieu de la santé. Eh bien, ce n'est pas forcément la notion de prosélytisme qu'on va retenir en France. Et en fait, on va voir que la loi applique une conception qui est beaucoup plus quand même restreinte du prosélytisme. Enfin, vous allez avoir des libertés religieuses qui vont être beaucoup plus restreintes. Est-ce que ça va vous suivre pour l'instant ? Alors, là, pour résumer cette première partie, le principe. C'est celui, normalement, de la liberté religieuse. D'accord ? Article 10, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai le droit de parler de Dieu. Mais l'État français a parfaitement le droit de restreindre ma liberté religieuse à condition que ce soit prévu par la loi, nécessaire, dans le but de protéger soit l'ordre public, soit les libertés d'autrui, et ça doit être proportionné à ce but. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que en tant que professionnel de santé, ma liberté religieuse est restreinte. Est-ce que ça rentre bien dans ces catégories-là ou pas ? Donc là, je vais faire différents points. Et je vais commencer par traiter de la question de « je suis un professionnel de santé ». Après, si ça vous intéresse, on pourra parler de la question de « un patient ». Est-ce qu'il peut manifester sa liberté religieuse ou pas ? Là, on se passe du point de vue d'un praticien. Est-ce que la restriction religieuse existe ? Est-ce que c'est légal ou pas ? Donc on a vu, pour restreindre la liberté religieuse, il faut déjà que ce soit prévu par la loi. Est-ce qu'on a un texte de loi qui vient restreindre la liberté religieuse à l'hôpital ? La réponse est oui. On a une loi du 9 décembre 1905, la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État, qui vient poser le principe de la laïcité de l'État français. C'est un principe qui est repris dans la Constitution française, article 1, la France est une république laïque. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, la laïcité, là c'est pareil, nous n'avons pas de définition juridique de la laïcité. On a beaucoup utilisé des concepts qu'on ne définit pas. Par contre, qu'est-ce que ça englobe en fait l'idée de la laïcité? C'est un système d'organisation de l'État dans lequel l'État ne doit pas manifester de religion, d'accord? Donc il ne peut pas se prononcer pour ou contre une religion. L'État doit protéger toutes les religions et donc protéger la liberté religieuse de chacun. Et ça, ça implique le fait pour l'État d'avoir un principe de neutralité. Donc l'État doit prendre des obligations positives pour protéger la liberté des gens. Par contre, il ne peut pas se prononcer plutôt en faveur ou défaveur d'une religion. Donc l'État doit être neutre par rapport à la religion. Alors la question se pose de savoir à qui s'applique ce principe de laïcité de l'État. Donc ça s'applique à l'État, mais l'État n'est pas le seul concerné par ce principe de neutralité et de laïcité. Et donc, c'est là que ça nous intéresse, ce principe de neutralité va s'appliquer notamment à tous les agents de la fonction publique et plus largement donc à toutes les personnes qui vont exercer dans une entreprise qui exerce une mission de service public. Donc vous, en tant que professionnel de santé qui travaille à l'hôpital, là je parle des professionnels qui sont à l'hôpital, d'accord? Vous allez entrer dans la première catégorie, agent de la fonction publique. Donc le principe de laïcité s'applique. Maintenant pour des professionnels de santé qui travailleraient dans une clinique privée, eh bien ce principe va également s'appliquer. D'accord ? On a un arrêt de la Cour de cassation qui date du 19 mars 2013 qui prévoit que ce principe s'applique à tous les employés d'établissements privés qui exercent une mission de service public. C'est le cas d'une clinique, par exemple. D'accord ? Donc même si vous n'êtes pas fonctionnaire, le principe de neutralité de l'État s'applique à vous. Et on a un arrêt qui date de 2000 dans lequel on est venu préciser que ce principe de neutralité s'applique même si vous n'êtes pas en contact avec les usagers du service public. Donc même si vous êtes par exemple laborantin, vous travaillez juste dans votre laboratoire toute la journée, vous ne voyez aucun patient, le principe de neutralité religieuse s'applique également. Est-ce que ça va pour le moment ?
Oui ?
Non, alors là, attention, là on est sur les gens qui travaillent. À l'hôpital ou en clinique. On viendra après pour les travailleurs indépendants, d'accord ? Donc là pour l'instant, oui.
CE, c'est communauté ouvrière ?
CE, c'est Conseil d'État. Non, Conseil d'État, c'est l'avis du 3 mai 2000. C'était sur un licenciement par rapport à un port de voile. Donc, premier point, est-ce que ma restriction religieuse est bien prévue par la loi ? Oui. D'accord ? Et on voit que c'est assez large, ça s'applique largement. Deuxième point, normalement, la restriction religieuse doit être prévue par la loi. Elle doit aussi être nécessaire et proportionnée pour protéger notamment les libertés d'autrui. Est-ce que c'est le cas ? La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie, un petit peu, ce principe de neutralité. Dans le cadre d'une affaire qui portait sur le non-renouvellement d'une assistante sociale qui travaillait à l'hôpital et qui refusait d'enlever son voile. On a beaucoup d'affaires par rapport au port du voile en général. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en 2015, c'est l'affaire Ebrahimian contre France, a considéré que là, le principe de neutralité à l'hôpital, eh ben, il était bien nécessaire et proportionné. Donc ça veut dire que la restriction religieuse à l'hôpital, la restriction religieuse des fonctionnaires, elle rentre bien dans les conditions. Donc ça, on ne peut pas revenir dessus, ça ne sert à rien d'essayer de contester ça. Ça rentre bien dans toutes les conditions prévues par la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord ? Du coup, qu'est-ce que ça implique concrètement ? Ça qui est important de savoir. Alors, je suis un professionnel de santé et je travaille à l'hôpital ou en clinique. Ce principe de neutralité, il est rappelé aussi dans une circulaire récente, la circulaire du 15 mars 2017, sur la neutralité dans la fonction publique. Ça veut dire que, d'abord, il y a une interdiction de mettre de ses fonctions. J'insiste aussi sur dans l'exercice de ses fonctions. On va voir comment on peut jouer avec ça. Et on a un arrêt du tribunal administratif de Paris, qui date de 2002, qui rappelle que l'application de ce principe va être particulièrement rigoureuse dans des services où l'usager est dans un état de dépendance et de vulnérabilité. Donc ça veut dire que ce principe, non seulement il est valable, mais en plus, dans la mesure où on considère que l'usager, donc ici le patient à l'hôpital est dans un état de dépendance et de vulnérabilité, on va être particulièrement strict sur l'application de ce principe. Donc vous allez être davantage embêté par rapport à ça, d'accord ? On est plus ferme parce qu'on considère que le patient est fragile et donc il faut protéger sa liberté de conscience, d'accord ? Donc, premier principe, je ne peux pas manifester mes opinions religieuses dans l'exercice de mes fonctions. Ça implique aussi que je ne peux pas traiter différemment les patients pour un motif religieux. Donc vous ne pouvez pas dire, donc ça c'est dans des textes du Code de la Santé publique, les articles 1110-3 et 4127-7. Ça, je pense que vous aurez le PowerPoint, hein, c'est ça, vous pouvez tout noter. Qu'est-ce que ça signifie? C'est par exemple, vous ne pouvez pas dire, bah, je ne veux pas traiter ce patient parce qu'il est bouddhiste. Ça ne me plaît pas. D'accord? Vous êtes obligé, normalement, de traiter de la même manière tous les patients, quelle que soit leur religion. Sinon, c'est une discrimination.
Excusez-moi.
Oui.
Du coup, c'est lui à qui on doit faire une transfusion sanguine.
On va y venir. Oui. On va voir est-ce que le patient peut vous opposer sa religion ou pas. Alors, il y a également, bien sûr, interdiction de porter des signes religieux, du coup, sur son lieu de travail, en plus particulièrement dans le domaine de la santé, c'est aussi pour des raisons d'hygiène. Ça se justifie. Là, j'ai pris quelques petits exemples de cas dans lesquels des fonctionnaires ont été sanctionnés sur ces questions un peu de liberté religieuse. Et on voit qu'en fait, l'application est quand même assez large, là, de la notion de prosélytisme, puisque par exemple, on a un agent public qui a été sanctionné parce qu'il avait fait apparaître son adresse électronique professionnelle sur un site pour faire des activités chrétiennes. Ça a été sanctionné. Le fait de distribuer des tracts religieux à l'occasion de son service, alors là, c'était le cas d'un postier, du coup, qui en profitait. Oui, il a été sanctionné. Et également, le fait de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et collègues. Là, ça peut faire un petit peu peur, mais on était quand même dans un cas particulièrement extrême, puisque c'était un animateur qui travaillait auprès de jeunes enfants et qui professait des convictions qui étaient un petit peu... comment dire ? Donc sur la désexualisation de l'être humain, sur la fin du monde imminente, etc. Donc c'était assez extrême et les enfants commençaient à être endoctrinés dans ce courant-là. Donc on est quand même souvent sur des cas un peu extrêmes ou des cas où en plus les personnes ont refusé de changer de comportement. On pense souvent sur le bord du voile, la personne, on va lui demander de retirer, le voile, elle refuse, etc. Donc on est souvent comme ça. Si vous ne respectez pas tout ça, vous pouvez faire l'objet de sanctions. Mais il y a un arrêt qui est intéressant, qui date de 2006, qui rappelle quand même qu'on va sanctionner, mais qu'on va quand même tenir compte de la réitération du comportement, du degré d'ostentation, de la nature des fonctions. Est-ce que la personne était au contact du public ou pas? Est-ce que le patient était particulièrement vulnérable ou pas? Donc les juges vont quand même tenir compte en fait des circonstances d'espèce pour voir quelle est la sanction qui pourrait être appropriée ou non. D'accord ? Est-ce que ça va jusque-là pour le volet interdiction ? Donc pour l'instant, professionnel de santé, témoignage de sa foi, c'est limité. Hein ? Maintenant, est-ce que vous avez quand même une possibilité des fois d'exprimer votre liberté religieuse au travail ? Alors oui, mais ça va être extrêmement restreint. Du coup, comme on est sur un principe assez strict à l'hôpital. Donc déjà, il faut savoir que vous bénéficiez de certaines clauses de conscience. Et donc vous avez le droit de refuser de pratiquer certains actes pour un motif religieux. On a trois clauses de conscience qui sont explicitement prévues. Donc on en a une, c'est pour les médecins, le fait de refuser de pratiquer une stérilisation à visée contraceptive. Vous avez la possibilité de refuser valablement de le faire. Vous avez une clause concernant l'interruption volontaire de grossesse. Donc là, c'est applicable aux médecins, mais également aux sages-femmes et à tout infirmier puis tout auxiliaire médicaux. Vous pouvez refuser de pratiquer ou de participer à cet acte-là. Et enfin, le dernier point qui est explicitement prévu, c'est le fait de faire une recherche sur un embryon. Il existe une clause, vous pouvez refuser. D'accord ? Pour un motif religieux. Alors maintenant, on a un autre petit point. Vous avez le droit d'opposer un refus de soins à un patient pour une raison personnelle. Et donc ça, cette raison personnelle peut parfaitement être une raison religieuse. Par contre, c'est encadré, vous ne pouvez pas le faire en cas d'urgence, évidemment. Et vous avez dans ce cas l'obligation d'orienter le patient, de lui expliquer votre refus et de l'orienter vers quelqu'un qui pourra prendre en charge son cas. D'accord ? Autre point, malheureusement pour les professionnels de santé, c'est pas simple. Théoriquement, vous avez le droit de demander un aménagement du temps de travail ou un congé pour un motif religieux. Pour prendre Noël, théoriquement, vous pouvez le demander. Par contre, on a le droit de vous le refuser si ce n'est pas compatible avec l'organisation du service. Donc, dans votre cas, c'est pas simple. Mais bon, il faut toujours tenter. Est-ce que ça va, là, pour le professionnel de santé, un petit peu, ce qu'il a le droit de faire, pas le droit de faire ? Donc, par rapport, en fait, à la question, est-ce que j'ai le droit de prier avec un patient ? Théoriquement, légalement, non. Quand vous êtes dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Là, c'est une autre question, d'accord ? Donc, tant que vous êtes dans le cadre, en fait, de l'exercice de vos fonctions, est-ce que j'ai le droit de parler avec mes collègues de Dieu quand je suis au travail ? Théoriquement, non. Est-ce que, voilà, c'est vraiment restreint. Après, il faut jouer avec nos principes. Alors maintenant, je suis un... Oui. Est-ce qu'on est dans l'exercice de ses fonctions, là, du coup ?
Non. Donc, on a le droit de parler avec ses collègues.
Donc, théoriquement, on aurait le droit.
Jésus !
Après, par contre, il ne faudrait pas être en tenue. Il ne faut pas qu'on puisse vous confondre avec un médecin. D'accord ? Ou un autre professionnel. Après, sachant que le principe de neutralité est quand même appliqué très strictement à l'hôpital, donc est-ce qu'on pourrait essayer de vous enquiquiner par rapport à ça ? Oui, certainement. Il faut faire avec un peu de subtilité, d'accord ? C'est pareil, vous avez... En fait, par rapport à ça, il faut raisonner en termes de risque. Qu'est-ce que concrètement vous risquez si vous le faites ? L'idée un peu de tous ces textes, de ces lois, c'est de protéger quand même la liberté de conscience d'un patient, de se dire que le patient il est fragile et qu'il ne faut pas l'embrigader, ce qui est parfaitement logique. C'est un peu notre conception du prosélytisme, on ne va pas lui taper dessus à coups de Bible, convertis-toi, voilà. Maintenant, vous tendez une perche à un patient. Le patient, il est face à l'imminence de sa mort peut-être, et vous dites, vous en pensez quoi ? Le patient, il a l'air ouvert, après il n'y a pas forcément de raison qu'il porte plainte contre vous derrière. Enfin, il faut voir en fait, surtout s'il est mort, effectivement. Donc il faut en fait aussi voir qu'est-ce que vous risquez concrètement si vous le faites. Vous pouvez toujours prendre une perche au patient, si après il est volontaire pour prier, voilà. Tant que c'est fait de manière subtile, et voilà. Et après, comme on a dit, il y a aussi d'autres professionnels comme les aumôniers qui sont formés à ça. D'accord ? Mais après, légalement, vous n'avez pas le droit de faire tout ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours respecter la loi. Voilà.
Ce ne sera pas difficile.
C'est ça. Alors, deuxième point, je suis un usager du système de santé. Là, j'ai hésité à en parler et c'est en discutant avec des infirmiers, on m'a dit, mais des fois, il y a les patients, ils nous imposent des points religieux. Donc, je me suis dit, on va en parler un petit peu. Est-ce qu'un usager du système de santé peut faire du prosélytisme, lui, à l'hôpital ? Donc le patient, est-ce qu'il peut en profiter pour distribuer des tracts et autres à ses compagnons de chambre ? Alors, théoriquement, juridiquement, il est usagé, donc lui, normalement, le principe de la laïcité ne devrait pas s'appliquer. Mais en fait, on a cette fameuse circulaire du 15 mars 2017 qui est venue restreindre aussi la liberté religieuse des patients. Et donc, les usagers du service public, donc là les patients, ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, sécurité, santé, hygiène. Cette circulaire interdit aux patients de faire toute forme de prosélytisme. Après, c'est pareil, comme on ne sait pas ce que ça veut dire, ça peut être plus ou moins large, mais normalement, un patient ne peut pas faire de prosélytisme. Donc, un patient qui distribuerait ses tracts religieux à tous les infirmiers et autres, ça, c'est du prosélytisme. Normalement, il ne peut pas le faire. D'accord ? Par contre, on doit respecter les convictions religieuses du patient dans la limite du bon déroulement des soins et du bon fonctionnement du service. Donc, un patient qui refuse de manger du porc parce que c'est contraire à sa religion, normalement, l'hôpital fera tout pour pouvoir respecter cette conviction tant que ça reste compatible. Donc, est-ce que ça ne pose pas de problème par rapport à son protocole de soins ? Est-ce que ça ne vient pas tout désorganiser le fonctionnement du service ? D'accord ? Mais normalement, principe de neutralité, on respecte les convictions religieuses du patient. Et les patients ont la liberté de pratiquer le culte, pareil, tant que ça ne dérange pas le service. Donc un patient qui se lèverait toutes les nuits à 3h du matin pour faire ses prières, si ça dérange son compagnon de chambre, il va falloir trouver comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il puisse pratiquer sa liberté religieuse sans que ça dérange l'autre. En fait, c'est l'idée de protéger la liberté de conscience de chacun. Donc du coup, est-ce que le patient peut vous imposer sa religion, entre guillemets ? Donc par exemple, imaginons que vous avez une femme musulmane qui refuse d'être examinée par un homme. Est-ce qu'elle a le droit ? Le principe, c'est celui du libre choix du médecin. Donc normalement, une patiente qui ne veut pas être examinée par tel médecin ou tel médecin, elle a parfaitement le droit de s'y opposer, sauf cas d'urgence. Là, on n'a plus le droit de choisir librement son médecin. Il ne faut pas que ça perturbe le fonctionnement du service. Donc par exemple, vous avez un service où il n'y a que des internes masculins. La patiente refuse d'être examinée par un homme, ben on ne va pas aller chercher une femme qui est interne juste parce qu'elle ne veut pas être examinée par un homme. On ne va pas désorganiser tout le service pour elle. Par contre, est-ce que vous pouvez la forcer du coup à être examinée ? Non. Donc, si la patiente refuse à tout prix d'être examinée, que là vous n'avez pas des hors cas d'urgence, elle a le droit de le faire. Par contre, là, si vous ne pouvez pas la prendre en charge ou quoi, on entre dans le cadre du refus de soins, donc il faut peut-être expliquer pourquoi, quels sont les risques, à quoi est-ce qu'elle s'expose si elle refuse là d'être examinée tout de suite, l'orienter, etc. D'accord ? Donc, libre choix du médecin. Donc c'est pareil, le patient, il est libre de le faire, mais il ne doit pas non plus causer de désordre dans le service. Il y a un patient qui serait notamment violent envers le personnel, agressif. On peut tout à fait aussi envisager sa sortie de l'établissement pour un motif disciplinaire. Ça existe. Si son état de santé le permet. Mais on peut mettre un patient à la porte de l'hôpital. D'accord ? Au moins le changer de service. Deuxième point, est-ce qu'un patient peut refuser des soins pour un motif religieux ? Alors, en principe, on a un article L811-4 dans le Code de la santé publique qui dispose que c'est le patient, d'accord, qui consent aux soins. On ne peut pas faire un soin, un traitement, n'importe quel acte médical sur une personne qui le refuse. D'accord ? La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée également sur cette question, c'était par rapport à la fin de vie, dans un arrêt Preti contre Royaume-Uni. En 2002, c'est une atteinte à l'intégrité physique. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Quand on est hors cas d'urgence, bien sûr. Si on est dans une situation d'urgence que la personne ne peut pas consentir, le consentement n'est pas nécessaire. D'accord ? Par contre, en France, on a une conception un petit peu particulière de la question du refus de soins. Et donc, notamment, on vient à cette fameuse question de si le patient refuse ses transfusions sanguines parce qu'il est témoin de Jéhovah. bien, c'est ça. Est-ce qu'un patient témoin de Jéhovah a le droit de refuser les transfusions sanguines? Oui, normalement, libre choix, donc pas de problème, il peut le faire. Par contre, est-ce que si jamais vous vous dites, mais là, il va mourir, on le transfuse quand même, est-ce que vous pouvez être condamné pour ça? Alors, théoriquement, oui, sauf qu'en France, les juges ont développé une jurisprudence un petit peu particulière sur cette question. Et c'est dans une affaire, j'aime beaucoup le nom aussi, l'arrêt Sénanagake, donc c'est un arrêt du Conseil d'État, sur un patient de témoin de Jéhovah qui avait refusé à plusieurs reprises les transfusions sanguines, devant témoin, par écrit, enfin vraiment, il avait fait savoir que c'était hors de question qu'il fasse l'objet d'une transfusion. Le cas se présente, et les médecins décident qu'il faut lui sauver la vie, et on va quand même le transfuser. Le patient a engagé la responsabilité des médecins et d'établissement, et les juges, le Conseil d'État en 2001, a décidé qu'en fait, le fait de traiter un patient contre sa volonté ne constituait pas une faute pour le médecin si l'acte était indispensable à la survie du patient et proportionné à son état. Et donc dans le cas de la transfusion sanguine pour un témoin de Jéhovah, par exemple, cet acte était indispensable à sa survie, c'était proportionné, on n'a pas fait plus que nécessaire, donc là les médecins n'ont pas été condamnés. Pour l'instant, la position française est assez, ne bouge pas par rapport à ça. Donc normalement, on ne peut pas traiter le patient contre sa volonté. Par contre, si on accomplit un acte qui est indispensable à sa survie, proportionné à son état, même si c'est contraire à la volonté du patient, pour l'instant, vous n'êtes pas condamné. D'accord ? Enfin, il y a le cas particulier, si le patient est mineur et que ce sont par exemple les parents qui s'opposent aux soins. Puisque normalement, le patient est mineur, vous allez rechercher le consentement parental. Pareil pour le majeur sous tutelle, normalement, là, pour l'instant, j'espère, ça devrait bouger bientôt, c'est mon sujet de thèse, ça risque d'évoluer, mais pour l'instant, vous cherchez le consentement du tuteur aussi. Si le refus de la personne, du tuteur ou des parents, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du patient, vous pouvez quand même le traiter. D'accord ? Non, enfin ça dépend en fait de la situation, mais si vous êtes dans un cas où là vous êtes sur des conséquences graves et que c'est indispensable, vous le traitez. D'accord ? Ça c'est l'exception qui est prévue par la loi. Donc est-ce que ça va pour l'instant ? Donc en fait on voit que le patient, bah, il a aussi une liberté religieuse, mais finalement elle est aussi restreinte. On doit respecter la liberté de conscience des autres usagers, du personnel. Et voilà, il y a des choses, il ne peut pas tout faire comme il veut. Est-ce que ça va là sur ce point ?
C'est un paternalisme d'État.
Voilà, c'est un petit peu ça. Après, l'idée, en fait, c'est que le patient est fragile et qu'on ne veut pas avoir de cas extrêmes où il y a des gens qui vont en profiter pour embrigader, et voilà. Alors là, le cas des aumôniers, bon, rapidement, forcément, un aumônier, il est engagé pour quoi, normalement ? Assurer la pratique d'un culte, permettre au patient de manifester sa religion, donc lui, il n'y a pas de principe de laïcité qui va s'appliquer. Par contre, bon, c'est pas moi la spécialiste là du coup, normalement il y a certains établissements qui vont interdire le prosélytisme. Après là on serait plutôt dans une notion un peu de prosélytisme abusif, donc d'essayer de distribuer des tracts à tous les patients de force. Là ça dépend des règlements des hôpitaux, mais j'ai entendu parler de certains règlements en tout cas où c'est marqué pour les aumôniers, pas de prosélytisme.
Je reviendrai dessus.
Voilà, je pense que... Alors maintenant, je suis bénévole. Donc là, ça va un petit peu dépendre de à quel titre vous êtes engagé comme bénévole. Notamment ceux qui travaillent comme visiteurs, c'est pareil, il y a un règlement qui va s'appliquer. Mais souvent, c'est comme pour les patients, de toute façon, interdiction de faire du prosélytisme. D'accord ? Alors là, petit cas particulier, je pense que c'est pas... Oui ?
Excuse-moi. Il me semble que pour bénévole, votre situation précédente... Il y a peut-être deux choses à différencier. D'une part, les bénévoles dits d'accompagnement, qui sont regroupés dans des associations comme Jalmalve, Alliance, Association Père Clément à Strasbourg, etc., qui font ça dans le cadre, très officiellement, d'un engagement citoyen. Et donc, c'est complètement dans le cadre de notre laïcité, ça ne pose pas de problème. Et puis, le deuxième groupe de bénévoles, qui sont ceux qui, bénévoles, ben, ils ne sont pas payés, mais ils font quand même des visites et ils le font dans le cadre de l'aumônerie, en tant qu'auxiliaire d'aumônerie.
Oui.
Mais eux, leur assise n'est pas forcément l'engagement citoyen, ça
non,
peut, mais c'est quand même d'abord la communauté à laquelle ils appartiennent.
Oui, c'est pour ça en fait, tout dépend dans quel cadre vous allez intervenir, mais les bénévoles par exemple dans le cadre d'un service d'aumônerie vont plutôt répondre du coup, enfin quand vous êtes recruté en tant que bénévole, il y a quand même un cahier des charges à remplir. Donc là, forcément, quand vous êtes bénévole mais à titre religieux, ça ne va pas forcément être exactement le même cadre que si... donc ça dépend en fait de votre règlement, de pourquoi vous êtes recruté. Donc ça peut être plus large pour les bénévoles, effectivement. Alors là, petit cas, je vais faire ça rapidement parce que c'est de... Ça existe encore un petit peu, l'entreprise de tendance. Au niveau des hôpitaux, ça serait les hôpitaux privés catholiques, par exemple, avec les sœurs qui travaillent... Donc là, on est sur un hôpital privé, donc normalement, le principe de laïcité devrait s'appliquer, mais on va avoir une qualification de l'entreprise de tendance. Une entreprise de tendance, c'est une entreprise qui a pour objet de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Donc là, il y a vraiment les convictions religieuses qui sont prises en compte, qui font partie un peu du champ de mission des professionnels. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de principe de laïcité qui va s'appliquer, d'accord ? Mais c'est de moins en moins le cas, enfin, il y a encore quelques hôpitaux privés catholiques qui existent. Je ne sais pas s'il y a des hôpitaux protestants, je connais, Jean-Marc. Donc voilà, donc dans, là, il n'y a pas de principe de neutralité religieuse, du coup c'est un petit peu différent. Il faut bien sûr éviter le prosélytisme abusif, on respecte la liberté de conscience du patient, mais on a une liberté de parole qui est beaucoup plus large. Alors, dernier point, j'exerce de manière indépendante. Du coup, vous êtes cadre libéral et vous êtes en cabinet et vous n'êtes pas à l'hôpital ou en clinique. Donc là, bah, vous avez une liberté de parole pour vous, c'est bon. Pas de principe de laïcité. Sous réserve, bien sûr, du respect de la liberté de conscience du patient. Et vous avez également l'obligation de respecter les règles que vous impose la déontologie. Donc, c'est la question, par exemple, est-ce que je peux refuser de soigner un patient pour un motif religieux ? C'est comme pour les professionnels à l'hôpital. Oui, vous pouvez refuser pour un motif personnel, si ce n'est pas en cas d'urgence, et puis il faut l'orienter vers un confrère. Pareil, les différentes clauses de conscience, ça va également s'appliquer à vous. Et vous devez respecter les croyances de tous les patients. Donc, vous ne pouvez pas faire discrimination sur une raison religieuse. D'accord ? Sinon, là, vous pouvez parler de Dieu. Vous avez le droit. Alors, juste, on va finir. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces questions, je peux vous recommander deux ouvrages particuliers. On a l'Observatoire national de la laïcité qui a développé un guide qui s'appelle « Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé ». On le trouve sur le site laïcité.gouv.fr. qui est assez bien fait, qui voit les différents cas, je suis aumônier, je suis patient, je suis professionnel. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, vous avez les livres édités par le CNEF, Libre de le dire, qui sont très bien faits. Donc vous en avez un premier, c'est un petit peu sur les fondements généraux sur la liberté religieuse en France, qui a les fondements théologiques, philosophiques, etc. Et après, il y a plein de petits livres comme ça qui ont été édités pour différentes situations. Donc vous avez par exemple « Libre de le dire au travail », et il y a une petite partie sur les professionnels de santé.
C'est l'Union évangélique
qui est professionnelle ici. Oui, donc c'est assez bien fait, donc ça je vous les recommande. Il y en a aussi pour l'école, pour l'église, pour l'espace public, etc. Alors par contre, juste celui-là pour les professionnels de santé, il y a une coquille sur un des textes. Donc si jamais il y a un article qui n'est pas le bon, mais ils sont bien, d'accord ? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant, la liberté religieuse à l'hôpital. Merci. forcément une question de est-ce que c'est du prosélytisme, mais c'est la question est-ce que je suis fonctionnaire, que je suis dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc est-ce qu'elle pouvait être sanctionnée? Bah oui, légalement. Puisque un fonctionnaire n'a pas le droit d'exprimer ses convictions religieuses dans le cadre de son service. Donc distribution de calendrier à ses collègues, oui, légalement ça peut être sanctionné.
Mais par exemple, si on est
c'est toujours sur les heures de travail, sur la période de travail, donc a priori c'est plus. Ouais. À l'hôpital, on va l'appliquer de façon très stricte. Ça serait une autre entreprise, vous êtes par exemple, vous êtes au lycée, vous êtes dans la salle des professeurs, ils vont peut-être être un petit peu plus souples par rapport à ça, mais à l'hôpital ils sont assez stricts parce qu'on considère. Après, voilà, la question, c'est en fait aussi, qu'est-ce que je risque de le faire? Est-ce que je suis avec un collègue avec qui, ben voilà, tout à l'heure on l'a dit, le fan de Rodovandro, il parle de ses Rodovandro à tout le monde. Vous parlez de l'église, votre collègue est ouvert, vous n'êtes pas en train de l'importuner avec ça. Ben, il n'y a pas de raison de se priver, hein. Enfin, légalement, vous n'avez pas le droit, mais après, voilà. On ne fait pas tout ce que dit la loi, quand vous traversez au passage piéton et que c'est le feu rouge. C'est pour faire à la loi, mais on le fait quand même. Donc voilà, il faut un petit peu peser le pour et le contre.
Oui, j'ai beaucoup aimé votre présentation du prosélytisme, à la fois non défini, ce qui est négatif, et en même temps très positivement, espace d'interprétation et de parole. Et ça rejoint mon habitude de soignant, puisque je fus médecin dans une autre vie. il y a là aussi une autre notion pour laquelle il y a non-définition et possibilité d'une interprétation, c'est l'obstination qui peut être ou raisonnable, et on remercie les médecins de s'obstiner dans ce cas-là, ou bien déraisonnable, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, et il revient bien sûr à une délibération collégiale de déterminer ce seuil pour cette personne dans cette situation et qui fait qu'on va passer du raisonnable au déraisonnable. Mais donc je fais une passerelle en quelque sorte entre ces deux notions, celle du prosélytisme et celle de l'obstination qui laisse, et ça je trouve que je ne l'ai pas compris tout de suite comme soignant, j'avais plutôt peur des juristes et des législateurs. Je le voyais comme une menace, et donc ça me faisait me recroqueviller sur moi-même et avoir plutôt une attitude défensive, jusqu'à ce que des amis juristes bien intentionnés et largement insistants, parce que j'avais du mal à comprendre, arrivent à me convaincre qu'en fait, l'état d'esprit du législateur, c'est quand même avant tout la protection des droits, la protection des citoyens. Et c'est ça qui est l'axe structurant leur interprétation, en particulier là, du prosélytisme. Alors, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est du délire ou est-ce que vous êtes d'accord?
Il faut savoir qu'un juriste, il est formé à jouer avec la loi. Le juriste passe son temps à chercher comment on contourne la loi pour rester dans les clous. Donc, on est censé assurer votre protection, donc on va vous dire, bah là, non, vous n'êtes pas censé le faire, maintenant vous l'avez fait. Moi, je vais chercher comment on arrive à vous protéger. Enfin, un juriste, par exemple, à l'hôpital, son travail, ça va être de vous protéger, notamment en tant que professionnel de santé. D'accord ? Sur la question obstination déraisonnable et autres, là, il y a eu beaucoup d'évolutions là, récemment sur ces questions-là, notamment avec les affaires Lambert, les affaires Inès, Marva, donc sur les arrêts soins pour les enfants, pour les bébés. Donc là, c'est pareil, en fait, on joue avec les interprétations et. Bah, c'est jamais figé, c'est vrai que ça peut toujours évoluer de comment on va, la manière dont on va interpréter. Donc ça dépend en fait souvent aussi de ce qui est moralement considéré comme acceptable ou pas. Ça malheureusement, en fait on voit apparaître de plus en plus une neutralité de la société. Normalement la société française n'est pas laïque, d'accord ? C'est seulement l'État français qui est laïque. Et par exemple, j'en ai pas parlé, mais dans les entreprises privées et qui n'exercent pas de mission de service public, donc à l'hôpital ça ne fonctionne pas, mais dans le cadre d'une entreprise, normalement, le principe de laïcité ne s'applique pas. Donc, vous ne pouvez pas, théoriquement, dire à vos employés, bah, là, vous ne pouvez pas parler de vos convictions religieuses, vous ne pouvez pas porter de voile, etc. Sauf qu'on voit de plus en plus des entreprises revendiquer la laïcité. Et en fait, c'est comme si on ne pouvait plus envisager les rapports religieux de manière publique. Et ça doit être restreint à la sphère privée. Et donc, on est en train de basculer petit à petit un peu dans cette tendance. Donc, ça devient de plus en plus ferme. Mais normalement, effectivement, tout est une histoire d'interprétation. Est-ce que j'interprète la notion de prosélytisme, le simple fait de parler de Dieu, est-ce que ça, c'est du prosélytisme? Bah oui, peut-être bien. Après, est-ce que ça, pour autant, c'est sanctionné? Bah, en tout cas, pour la Cour européenne des droits de l'homme, non. Pour l'instant, c'est toujours... Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu un petit peu.
Si, merci bien, oui. Ça, oui. Et il y a peut-être une autre chose, je voudrais... Quelqu'un voulait parler? Pardon.
Non, je voulais poser une question.
C'est bon.
Oui, je suis professionnelle de santé dans la chambre d'un patient. Est-ce que je peux, sans faire le prosélytisme abusif, prier avec ce patient?
Théoriquement, non. Théorique. Puisque vous êtes un professionnel de santé, même l'aumônière conseille que non. Donc voilà.
Sauf si
lui demandait peut-être.
Il demande expressément et qui sait que vous êtes de la même religion.
Ça serait ça, en fait, c'est l'idée. De toute façon, vous êtes professionnel de santé dans l'exercice de vos fonctions. Principe de neutralité, non. Le patient sait que vous êtes chrétien, c'est lui qui demande. Bah, c'est pareil, normalement, non. Vous ne pouvez pas le faire. Mais après, pareil, est-ce que je cours un risque si c'est le patient qui demande? Il n'y a pas de raison qu'il porte plainte derrière, mais bon, après, vous pourriez quand même avoir des sanctions disciplinaires parce que vous l'avez fait. Donc après, il faut mesurer...
Si le patient le dit à quelqu'un
voilà.
De personnel, je suis très contente parce qu'il a prié avec moi...
C'est ça peut vous poser problème. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Normalement, non. Donc après, par contre, rien ne vous empêche éventuellement de revenir après le service, de dire au patient que vous finissez à telle heure. C'est possible.
La piste que vous ouvrez là, rien ne vous empêche de. Il me semble qu'il y a une autre possibilité pour ouvrir l'espace d'interprétation, c'est d'introduire la question de la frontière entre le public et le privé. Et puisqu'après ce qui est arrivé à Chantal Nobel, la chambre dans un hôpital est officiellement considérée comme un lieu privé, rien n'empêche que dans un espace privé, on puisse exprimer sa foi, l'exprimer éventuellement par la prière, mais en gardant principe de réalité, exactement ce que Anthony vient de rappeler, c'est-à-dire que même innocemment, la personne très heureuse, trop heureuse même que, d'avoir partagé la communion fraternelle, se met à lui hurler à tout le monde, et ça va revenir en boomerang à celui qui a accepté ça. Mais il y a quand même peut-être un espace d'interprétation possible.
Non. Là, je dirais que non.
Non.
Là, ça reste quand même, c'est pas votre chambre, c'est une chambre de l'établissement public. Vous êtes un professionnel de santé, ça marchera pas. Le patient, lui, il a le droit de prier. Ça, le patient, il peut le faire, il n'y a pas de problème.
Oui.
Par contre, vous, en tant que professionnel de santé, en tant que fonctionnaire, vous représentez l'État. Donc, ce principe s'applique. Donc, normalement, c'est non. Même si c'est dans la chambre du patient.
Ça rentre dans le cadre du devoir de réserve.
Voilà, c'est ça. On est dans le devoir de neutralité. Il ne peut pas se manifester en faveur d'une religion, normalement.
Oui. Simplement pour dire que on peut aussi expliquer ça au patient.
Oui.
Tout simplement. Oui. Non, je ne peux pas. Si, premièrement, bon, clairement, tout le monde est d'accord qu'il est hors de question d'arriver et dire je vais prier pour vous. Non, c'est hors de question. Deuxième situation, le patient dit j'aimerais prier avec vous. Je pense qu'on peut expliquer je ne peux pas. Dans cette fonction, je ne peux pas. Et on peut aller plus loin, c'est mais je connais un aumônier qui pourrait, par exemple.
Oui.
Enfin, voilà, enfin, on peut.
Tout à fait.
Ça devient
si
possible.
Vous voulez,
on peut.
Oui.
Ça, c'est pas. Et pour aller jusqu'à vous. On est en droit de rentrer chez soi et prier pour son patient.
C'est ça, si vous voulez vraiment voir les clous dans la loi, vous ne liez pas.
J'ai une question. Du coup, en tant qu'agent public, on est obligé de cacher sa conviction religieuse?
Bah, normalement, vous ne devez pas manifester de ce que dit le texte, manifester de conviction religieuse.
Mais ne serait-ce que dire je suis chrétien, ça passe pas ou...
Normalement, ça passerait pas. Après. Voilà, vous le dites, mais vous ne rentrez pas dans les détails, voilà, mais légalement, non. Manifester ses convictions religieuses dans le cadre de son service.
Alors, porter
ça non. Alors ça, c'est
normalement, on ne devrait pas porter.
Pas de signe religieux ostentatoire.
Je pense qu'il y a quand même connu de se faire.
Ça reste quand même un signe religieux, une croix huguenote, ça reste une croix. Donc ça passe pas. Après, la croix huguenote, les gens savent pas ce que c'est en général. Voilà, c'est ça.
Entre le t-shirt jésuitaire et la croix huguenote. Oui, mais là, le critère pour mettre tout le monde d'accord, c'est celui qui ne passe pas par la laïcité, il passe par l'ordre public de l'hygiène, qui est que je crois huguenot ou de Lorraine ou tout ce qu'on voudra, de toute façon, c'est un nid à germes et pour une obligation. C'est comme les bagues, tout ce qu'on porte, tous les bijoux.
C'est vrai que
vous
n'étiez pas là. Quelle est la signification de votre bijou? Alors, ça donne matière à la discussion. On engage une conversation, ben on répond à une question.
Donc, généralement, il ne faut pas répondre à ce genre de questions. Surtout que légalement, vous pouvez avoir un souci puisque vous n'êtes pas censé le porter au travail. Ouais.
Mais si un patient demande, par exemple, si on prend un lieu, si beaucoup de discussions, est-ce que vous croyez en. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, on répond simplement, sincèrement, comme on aurait répondu, est-ce que vous pensez que la France va gagner la Coupe du Monde? Si un patient vous dit ça, dans notre consultation, dans le rapport avec le patient, il y a des fois des choses comme ça qui arrivent. Il dit, dis-donc, et après, je me pousse, est-ce que vous croyez que la France va gagner? Vous dites, moi, je crois que la France va gagner. Et puis je crois en Seigneur. Est-ce que vous croyez en Dieu ou moi je crois en Dieu?
Oui, mais c'est une vraie réponse à Michael. Mais après, qu'il soit avec moi, moi j'ai eu le cas, oui, mais croyez en Dieu, mais vous êtes, vous positionnez. Moi je me suis sentie, bon, je suis en libéral, mais je pense qu'à Michael, j'aurais fait pareil. J'ai répondu.
En libéral, je pense que dans le public, à ce moment-là, il ne faut pas s'éloigner, il faut dire, écoutez, dans l'exercice de mes fonctions,
mais je vous oriente vers le monde protestant.
Quand j'étais étudiante, si vous avez envie de parler de ça, je peux appeler le moyen, tout simplement.
Ah oui, mais jusqu'à
passer le relais, il ne faut pas.
Se mettre en
difficulté. Amendablement, vous allez plaquer sur le patient votre théologie, etc. Il y a tout un apprentissage aussi. De relations aux patients entre le religieux et le patient, il y a des choses à respecter dans l'entretien où il faut se mettre vraiment au niveau du patient et je veux dire, on est très vite tenté de projeter sa théologie et lui où il en est habituellement. Et moi j'ai envie de poser une question là au point du débat où on en est, est-ce qu'on est là pour proclamer ou est-ce qu'on est là pour vivre l'Évangile? Et ça, c'est une question fondamentale, je pense, parce qu'il y a mille façons d'incarner l'Évangile dans le milieu hospitalier, sans ouvrir la bouche, je pense, à ces paroles de saint François d'Assise, qui dit « Soyez témoins de l'amour de Dieu et n'ouvrez la bouche que si c'est indispensable. » Et ça, c'est vraiment moi, mon mot d'ordre, même en tant qu'aumônier. Je ne suis pas là pour proclamer forcément, mais pour incarner. Et bon, voilà, ça demande réflexion et un travail sur soi aussi, pour savoir jusqu'où l'Évangile descend en moi et qu'est-ce qui va sortir de moi, qui ne va pas forcément en parole, dans mon contact à l'autre.
Mais moi, en fait, j'ai découvert une liberté que je ne connaissais pas en tant qu'étudiante en médecine. Pendant 6 ans, pendant toutes mes études de médecine, une éthique personnelle et je m'étais interdit toute parole, tout ce qui pouvait ce que je considérais comme imposer ma religion parce que j'étais athée dans le début de mes études. Après, je me suis
Est-ce que légalement j'ai le droit de le faire? Non. Donc ça, moi en tant que juriste, je suis quand même obligée de vous dire que non, vous n'avez pas le droit de le faire. D'accord? Par contre, après, est-ce que vous allez quand même le faire? Ça, c'est notre histoire. Est-ce qu'il faut mieux... Est-ce qu'il faut tout le temps respecter la loi? Ça, c'est une autre question, mais c'est à vous d'en être juge. Moi, en tant que juriste, je suis obligée de vous dire que non, normalement, non, vous ne devez pas le faire. Après, voilà.
Après, il faut assumer la transgression.
Voilà. Après, ça peut potentiellement vous attirer des problèmes.
Je peux peut-être partager quelque chose à ce sujet-là. J'ai le souvenir, dans 42 ans d'exercice de médecine en hôpital, d'une situation et une seule où, par rapport à ce qu'on discute, j'ai transgressé. Est-ce que je peux le raconter? C'était une dame qui, assez vite, s'est affichée comme témoin de Jéhovah. Elle était venue dans le service parce qu'elle était très fatiguée et elle avait une profonde anémie, donc elle manquait de globules rouges. Et il fallait essayer de comprendre pourquoi et de comprendre le plus vite possible parce qu'elle ne tolérait pas bien cette anémie. Et donc, en principe, je dis en principe, c'est-à-dire règle générale, quand il n'y a pas de raison de refus, eh bien, on mène en parallèle une transfusion tant qu'on n'a pas vraiment compris ou à pas avoir écarté les causes évidentes, bien sûr, et puis la recherche pour trouver la cause. Là, il se trouve que la cause était compliquée parce qu'il y avait beaucoup d'inflammation avec et que ça renvoyait à la cause de cette inflammation. Bien. Il est venu un temps où j'ai eu un entretien avec cette dame.
Excusez-moi si je vous apprends, enfin, il ne sert à rien à dire.
Seule dans sa chambre, avec une dame à qui j'explique qu'elle mange du globule rouge, que c'est à un point, je vois qu'elle le supporte mal, où sa vie peut être en jeu, où je n'ai pas encore très bien compris pourquoi elle en manque, qu'il faut faire des examens. Je suis d'accord pour tous les examens, mais je ne suis pas tout à fait sûr que vous puissiez tous les supporter et qu'on dispose suffisamment de temps. Il faudrait pouvoir transfuser, mais je vous ai dit, je vous confirme que je ne souhaite pas de transfusion, même si éventuellement, bien sûr, ça met ma vie en jeu. Très bien. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus? Je voudrais faire un peu plus connaissance avec vous. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous pousse à refuser avec cette détermination? Et donc, elle se met, vous l'imaginez bien, elle saisit l'occasion que je lui offre. J'ai droit à un réveillez-vous, et toute la théologie des témoins de Jéhovah indiquant donc tous les malheurs qui peuvent advenir quand on contacte ou manipule ou laisse entrer en soi le sang. Elle définit donc tout ce que vous pouvez imaginer. J'écoute. Et après avoir écouté, je répète, hein, en 42 ans, c'est la seule et unique fois. Je lui demande la permission de lui donner mon avis, carrément en enlevant un doute. J'ai apprécié tout à l'heure, je sais bien ça, c'est moi. C'est-à-dire, c'est pas le médecin qui parle et qui prescrit, c'est juste l'humain qui partage sa condition d'humain. Et en l'occurrence, sa condition de croyant. J'ai mis à sa condition parce que je suis tombé dans la marmite d'une communauté croyante quand je suis né, je ne l'ai pas choisi. Ensuite, effectivement, j'ai une démarche personnelle qui fait que peu à peu je l'ai choisi et je l'assume. Et bref, je me suis permis de m'exprimer face à elle en tant que croyant. Et en bref, j'ai essayé avec mes mots de lui expliquer que pour moi aussi, cette Bible à quoi elle se référait avait de l'importance et de la valeur.
Mais que concernant mon rapport au sang, je n'avais pas la même vision qu'elle en tant que croyant. Et en deux mots, je lui explique que je voyais le sang de manière bien plus, de manière plus positive à travers ce que ma foi m'inspirait dans ce que le texte disait, non pas dans l'Ancien Testament, mais nouveau, donc de Jésus-Christ. Bon, voilà. Et puis, on se remet à causer médecine et technique, qu'est-ce qu'on fait, on se donne un peu de recul encore, moi j'accepte son refus, et je lui dis au revoir et je mets la main sur la porte pour quitter la chambre, et je lui dis au revoir madame, elle me dit au revoir docteur, que Dieu vous bénisse. Ah, alors là, je me retourne. Et je lui demande, madame, quel est ce Dieu dont vous parlez et dont vous souhaitez qu'il me bénisse? Et elle me répond, c'est le Dieu dont vous venez de me parler. Je suis revenu le lendemain. On a rediscuté, pas du tout de foi, de quoi que ce soit, c'était juste la veille qu'il y avait eu cette chose-là. Mais le lendemain, cette dame m'a dit « Je suis d'accord pour que vous fassiez une transfusion. » Et donc, cette dame a été transfusée. Mais ce n'est pas un conte de fées. Malgré les explorations pour comprendre son anémie, malgré les transfusions, cette dame est décédée. Et donc, je ne peux même pas vous donner un témoignage ultérieur avec le recul pour évaluer éventuellement l'effet néfaste de ce qui a pu là se passer. Mais ce que je sais quand même, et ça ce sont les infirmières qui me l'ont transmis, les infirmières de l'équipe, c'est que la famille de cette dame, qui était la seule témoin de Jéhovah dans sa famille, a exprimé largement sa reconnaissance pour la possibilité qui lui avait été offerte et qu'elle avait accepté d'être transfusée, parce que finalement ce geste accepté a été pour cette famille l'occasion de renouer avec elle, sans que j'en sache rien, ça s'est pas passé avec moi, avant qu'elle ne finisse par m'écouter. Voilà. Mais je veux réinsister, c'est une seule fois en un nombre d'actes et de rencontres qui se chiffrent quand même par milliers sur une carrière de plus de 40 ans. Et donc, ça ne fait que conforter ce que vous avez dit. Et là, bon, et je ne me permettrai pas de raconter ça à n'importe qui. C'est parce que là, je vois qu'il y a une occasion de le partager, mais que ce soit surtout pas vu comme. C'est juste. Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé. Et j'attends le grand juge pour savoir ce qu'il en pense, lui. Hein.
En plus, c'est vraiment intéressant. Enfin voilà, on a mesuré le risque. Légalement, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas le faire? Après, il faut aussi peser les choses, le pour et le contre. Sur ces questions de témoins de Jéhovah, en plus, je vous ai dit que pour l'instant, vous pouvez encore traiter, ce n'est pas une faute. Il n'est pas impossible, parce que là, ce n'est pas dans la loi, c'est les juges qui ont développé ça, que ça évolue dans les années à venir, notamment depuis qu'on a du sang de synthèse qui est de mieux en mieux... supporté, donc il n'est pas impossible que les juges après changent de position puisque on a des avancées technologiques qu'on n'avait pas à l'époque. Mmh. Oui.
J'ai une question par rapport à la neutralité de l'État et de l'établissement. Donc on est dans un établissement laïque, mais pourtant, bon, alors nous chrétiens, on n'a pas le droit de faire état de nos religions. Mais on a d'autres professionnels de santé qui vont parler librement de leurs croyances philosophiques. Mmh. Ils vont même proposer aux patients des séances de méditation, de choses comme ça. Comment nous, parce qu'à ce moment-là, on est dans la neutralité, la barre se penche pour certaines religions.
Alors,
comment on doit se positionner par rapport à cela?
C'est une très bonne remarque. Alors, en fait, souvent, les chrétiens, on se met beaucoup plus de barrières que des gens qui sont athées ou... Et en fait, le principe de neutralité, il n'est pas applicable que pour la religion. On a vu la circulaire, et en fait, ça englobe la philosophie, les convictions politiques, toutes les convictions en fait. Même si ce serait des convictions de jardinage, enfin ça rentre dedans en fait. C'est toutes les convictions philosophiques, politiques. Donc théoriquement, ce principe de neutralité s'applique aussi à d'autres religions ou d'autres courants politiques ou philosophiques. C'est tous les courants de pensée, voilà. Donc normalement, ces gens n'ont pas le droit de proposer des séances de méditation, ils n'ont pas le droit de développer des propos politiques, etc. Mais oui, ils se permettent de le faire. Donc éventuellement, rappeler le cadre de la loi, enfin, à dire... rappeler que le principe de neutralité s'applique à tous les courants de pensée, et c'est pas juste... contre les protestants, contre les chrétiens, c'est, ça s'applique à tous.
Y a-t-il des recours ? Pas forcément juridiques, mais juste au niveau de...
Bah, il faut voir, je pense, avec le cadre, les cadres de santé pour qu'ils reposent les règles. Il faut voir avec les cadres d'équipe, en fait, au niveau administratif.
Voilà, mais est-ce que c'est un argument ? Par exemple, si on autorise les autres, à ce moment-là, on peut autoriser aussi.
Non, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose d'interdit que ça légalise l'interdit. Donc, normalement...
Si on est dans l'illégalité, soit on propose toutes les offres, ou on ne propose aucune offre.
Ça veut dire que tout le monde est dans l'illégalité, après.
Absolument.
Mais ça, c'est une autre... voilà. C'est toujours la question de est-ce qu'on suit la loi ou pas. Mais théoriquement, c'est pas parce que lui, il a tué son voisin, donc moi, j'ai le droit de le faire. D'accord. On cherche à tout prix à respecter ça. En général, on se fixe beaucoup plus de barrières qu'on en a d'ailleurs réellement. Enfin, dans le milieu médical, les barrières sont assez étroites, mais dans la rue, par exemple, on se restreint énormément alors qu'on est beaucoup plus libre qu'on ne le pense. Donc voilà.